mars 2012, le soir, donc le journal pour lequel je travaille, annonçait que le roi envisageait d'abdiquer et que nous avions déjà évoqué la date du 21 juillet à ce moment-là, 2013, pour l'abdication. Donc nous avions eu l'information via des sources extrêmement fiables disant que le roi souhaitait se retirer anticipativement et qu'il envisageait l'été 2013 pour le faire. Alors, entre-temps, il y a eu énormément de démentis en tout genre, essentiellement de la classe politique, beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Nous, durant cette année et demie, en tout cas, j'ai personnellement eu plein de contacts avec des gens très bien informés qui ont continué à me dire que oui, effectivement, c'était l'envie du roi. Maintenant, restait le point d'interrogation parce que la classe politique était tellement opposée à son retrait avant mai 2014, où il y aura beaucoup d'élections chez nous, tant au niveau national que régional. Et donc, on savait que la classe politique voulait qu'il reste jusqu'à ce moment-là. Et donc, il y avait quand même un point d'interrogation, puisqu'il y avait la volonté du roi d'un côté et le souhait de la classe politique de l'autre. Manifestement, le roi a tenu bon, à la fois pour des raisons de fatigue, de santé, estime qu'il ne peut plus continuer à faire son travail correctement. Et donc, il a maintenu sa décision, ce qui est assez unique en Belgique, parce que c'est un roi qui, jusqu'ici, pendant 20 ans, n'était jamais rentré dans un bras de fer avec les responsables politiques.
Alors, donc, il a invoqué les raisons de son abdication. Vous-même, vous l'avez évoqué, il y a la raison d'âge. Et puis, il a évoqué aussi sa santé, ses problèmes de santé. Est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres raisons ?
Je pense que ce sont essentiellement ces raisons-là, donc une fatigue, une lassitude, une volonté sans doute aussi de profiter encore de quelques belles années puisqu'il a 79 ans. Je pense qu'il ne faut pas chercher nécessairement beaucoup plus loin. Il a essayé de trouver ce qui lui semblait être le meilleur moment parce que, comme je le disais, l'année prochaine en mai, nous avons beaucoup d'élections importantes, donc il ne pouvait plus non plus laisser passer trop de mois. Il fallait que son fils puisse être en place depuis un an ou quasi un an avant les élections pour être bien dans la fonction avant d'affronter ce moment-là.
Quelles sont les conséquences politiques que peut avoir cette abdication pour la Belgique ?
Une des grandes craintes, et c'est pour ça aussi que le monde politique était contre ce retrait anticipé, c'est que les nationalistes flamands, qui sont aussi des républicains et des séparatistes, tirent à boulet rouge contre le prince Philippe une fois qu'il sera devenu roi. On craint, ou en tout cas certains craignent qu'il ne soit pas aussi à la hauteur de la fonction royale que son père et que ces nationalistes flamands fassent flèche de tout bois pour attaquer la monarchie en tant que telle et donc quelque part le pays en tant que tel à la moindre occasion ou à la moindre petite erreur de Philippe. Et c'est donc ces conséquences-là que beaucoup craignaient. Donc une instabilité politique à travers Philippe. Maintenant, il faut savoir qu'en Belgique, ben, le vrai pouvoir, il est politique, il n'est pas dans les mains du roi. Donc l'instabilité politique, elle sera ce que les hommes politiques en feront.
Alors justement, parlons-en du prince Philippe. Peut-on poser cette question de manière assez directe ? Est-ce un homme à la hauteur de la tâche ?
Mais ça, je pense qu'il faut au moins lui laisser le bénéfice du doute et donc attendre qu'il soit vraiment dans la fonction pour pouvoir tirer des conclusions. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 30 ans, il se prépare et intensivement. Maintenant, il faudra voir à l'autopsie, comme on dit. C'est clair qu'au niveau communication, c'est pas la personne qui est championne du monde, je vais dire, en la matière. C'est pas là-dedans qu'il excelle, mais il faut pouvoir séparer l'aspect communication de l'aspect travail de fond, pour lequel, pour le moment, il y a plutôt des compliments sur son travail. Donc, il faudra voir comment, en étant chef de l'État, il arrive à mieux communiquer, à avoir un rapport un peu plus naturel avec les gens, à être plus en phase avec la population. C'est vrai que Albert II a un contact très spontané, très facile avec tout le monde et que c'est une qualité que Philippe n'a peut-être pas de façon intrinsèque, mais qu'il peut apprendre aussi en étant sur le trône.
Est-ce qu'on peut s'attendre à la faveur de cette abdication à un changement de la Constitution qui pourrait restreindre encore un peu plus les pouvoirs du roi ?
Ça, il faut savoir que pour le moment, donc jusqu'aux élections de 2014, la Constitution n'est pas soumise à révision sur ces articles-là. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va entourer Philippe convenablement avec des personnes qui ont la confiance du gouvernement, qu'on va lui mettre sans doute certaines balises assez strictes avec des lignes à ne pas franchir, puisque ce qu'on craint surtout, c'est que ce soit un roi qui veuille être trop interventionniste sur la scène politique, un peu comme l'était le roi Baudouin. et comme ne l'a pas été justement Albert II. Maintenant, je pense qu'il a pris conscience ces dernières années des limites du rôle d'un roi, et donc ce sera à lui de faire ses preuves et de montrer qu'il reste effectivement dans les limites constitutionnelles. Ça dépendra un petit peu de ce qu'il montrera dans un premier temps, mais c'est pas exclu que par la suite, sous une nouvelle législature, on puisse aller plus vers une monarchie protocolaire. On verra, c'est pas exclu, disons.